Vous écoutez
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'After, comme tous les soirs de la semaine, la seule émission radio en direct à la radio, 7 jours sur 7. Ce soir, Jonathan Macardy dans la place. Salut Jonathan.
Salut les gars.
Ludo Bragnac est à mes côtés également, salut Ludo.
Salut à tous.
Et l'After, c'est à la radio sur RMC, bien sûr, et à la télé sur RMC Sport News. C'est important de le préciser, de plus en plus de téléspectateurs sur RMC Sport News qui nous regardent, messieurs.
C'est normal.
Tous les soirs, c'est normal parce que vous êtes beaux. Oui,
moi
vous
aussi.
Êtes beaux, messieurs.
Bah, aussi. On est l'élégance de l'After, c'est normal.
Il paraît que s'il y a.
Qu'on soit les plus regardés en télé.
Exactement.
Et bien sûr.
Le vendredi et le samedi, c'est l'élégance de l'After.
Oui, c'est vrai que c'est mieux qu'en semaine.
Ouais, attends. Faisons le casting. Non, arrêtons là. C'est dangereux, très dangereux.
Certains
ont essayé pendant l'été, ça n'a pas marché.
Pas raison possible.
Puisqu'on parle d'un homme élégant également. Polo Breitner est avec nous. Salut, Polo. Polo n'est pas encore là avec nous. Il sera avec nous dans un instant pour débriefer.
Oui, c'est pas reconnu comme élégant.
Salut Polo.
Bonsoir messieurs.
Salut, comment Polo. Tu t'es régalé toi ce soir?
Bah, écoutez, j'ai un petit problème de retour, je vous entends très très mal.
Écoute, on va essayer d'améliorer la ligne avec toi. Avec toi on va débriefer Allemagne-Pays-Bas, match de fou à l'instant, conclu par la victoire des Pays-Bas, 4 buts à 2, 5 buts dans la seule deuxième période. Et puis les Bleus, demain messieurs, face à l'Albanie, et bien sûr avis tranché de Ludo, qui concerne le sélectionneur Ludo.
Et oui, bien sûr.
Que tu aimes de plus en plus.
Je sais pas si je l'aime de plus en plus, mais ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer chez lui, en tout cas de mon point de vue.
L'avis tranché de Jonathan Macardy également. Il faut installer Lucas Hernandez en défense centrale avec les Bleus. Venez débattre, c'est un avis très tranché pour le coup, celui de Jonathan. Il n'est pas surprenant parce que ça fait 2 ans que tu le répètes en fait. Hein.
Ouais, en fait c'est ça, ouais.
On verra après dans un instant, bien sûr.
Et puis, un peu plus même.
Et si on va revoir Neymar sur un terrain cette nuit, 10h30 du matin.
Oui.
Brésil-Colombie. 4 mois après sa dernière apparition, on va revoir le Ney après ses déboires judiciaires, sportifs.
Il n'est pas en odeur de sainteté non plus au Brésil. Hein,
non, il n'est pas tendu.
Là aussi, on verra là-bas.
C'est un intérêt, hein, savoir comment il va être accueilli également chez lui, dans son pays, au Brésil. Et puis ce soir, messieurs, on est tous sélectionneurs, comme tous les soirs de l'année, hein, finalement. On a demandé à tous nos tweetos sur le compte de l'After, compte Twitter de l'After, leur 11 idéal de l'équipe de France. Je précise, joueur en activité, bien sûr.
Hein.
Pas un 11 historique. 11 idéal des Bleus, hashtag 11 idéal des Bleus. Ludo, il l'a fait. Tu l'as fait, Ludo?
Je l'ai fait, bien sûr.
Avec des surprises ou pas?
Ah, un peu.
Un petit peu.
Ouais.
Et suite Jonathan également, avec une énorme surprise dans la composition de Jonathan.
Pourquoi?
En numéro 10. Le dis pas pour l'instant.
Ah, oh, ouais. Ok. On verra.
Indice à l'affect.
J'ai peur.
Mais non, mais c'était
j'ai
une blague.
J'ai très peur,
une blague. J'ai écrit, c'était une blague. J'ai donné ma composition,
non,
vous l'avez mis,
la
c'était une blague.
Il m'aurait pas mis, tu sais, les copines, genre Clément Grenier. Ou...
Oh, mais c'était une blague. C'était une blague.
Ouais, Clément Grenier.
Vous n'avez pas mis cette compo, j'espère. C'était vraiment une blague.
Le 32-16 est ouvert, bien sûr, vos réactions sur le direct studio et sur le hashtag RMC Live. Messieurs, d'abord, tous les résultats de la soirée, 5e journée de la phase de poule, les qualifications pour l'Euro 2020. On débrouille dans un instant la victoire donc des Pays-Bas en Allemagne, 4 buts à 2, la jeunesse néerlandaise, le succès dans le même groupe de la Biélorussie en Estonie, c'est important également dans la course à la qualification. Le groupe E, victoire du Pays de Galles 2-1 face à l'Azerbaïdjan avec un but de Gareth Bale à la 84e. Le succès enfin des finalistes du dernier mondial, la Croatie sur la pelouse de la Slovaquie, 4 buts à 0.
Gareth Bale qui
il est bon là. Hein.
Pour un mec dont on veut se débarrasser, se débrouille pas.
Il va mieux apparemment, il est redevenu ami avec Zidane.
C'est le groupe E.
Tout va mieux.
C'est le groupe E là.
Ouais, c'est le groupe E.
Et pourquoi tu parles pas du groupe D? Comme c'était hier, parce qu'ils l'ont pas dit dans l'after hier, Gilbert Bribois, Daniel Riolo et compagnie.
Quoi, l'Irlande a gagné?
L'Irlande a fait match nul contre la Suisse, l'Irlande toujours en tête du groupe avec 11 points.
Incroyable l'Irlande. Ouais. Effectivement, en tête du groupe de l'Allemagne.
McGoldrick qui a encore mis un très beau but.
C'est Duff qui a marqué ou pas?
Non, McGoldrick.
Damien. Duff.
Et un grand Seamus Coleman encore hier.
On s'en fout, Jonathan, c'était hier. Ce qui compte, c'est ce soir maintenant.
On s'en fout jamais.
Est-ce
de
qu'on pourrait pas s'en foutre tout court même.
T'as raison, hier, demain, non. Parce que là, c'est fort ce que fait l'Irlande.
Vous êtes méchant.
Leader de son groupe. Le groupe G, victoire 6-0 de l'Autriche, la Grande Autriche, face à la Lettonie. Succès de la Slovénie face à la Pologne. Eh oui, Ludo.
Ouais, j'ai vu ça.
Eh oui, ton équipe nationale.
Et pourtant, il avait aligné
2-0.
Une équipe particulièrement offensive et séduisante.
Bah, c'est pas grave pour la Pologne. Hein, Ludo,
non,
hein.
C'est pas dramatique, mais bon, ça leur aurait permis d'asseoir leur, leur avance au classement et c'est un vrai échec parce que en Slovénie il y avait vraiment moyen de faire quelque chose.
Le groupe I avec un succès large de la Belgique face à San Marin avec des buts de Batshuayi, Mertens, Chadli et voilà. Batshuayi dans les arrêts de jeu, un doublé pour l'international en belge. La Belgique et la Russie qui s'est imposée en Écosse 2-1 vont quasiment tout droit vers l'Euro 2020.
C'est bien qu'ils jouent un peu Michi hein, quand même hein.
Ouais, un doublé.
Ah, parce qu'ils jouent jamais pas, hein. Ouais, non, c'est quand même et ça c'est pas un gâchis pour un club de Ligue 1 qui aurait pu le faire venir en prêt ou quoi.
Mais Monaco par exemple.
Là, par exemple,
Monaco, ils ont pas de joueurs.
Ils ont peut-être trop. Mais même pour un Lyon ou pour un Marseille, c'est pas un gâchis.
Bordeaux, trop cher pour Bordeaux, ça, non?
Mais en prêt.
Ouais.
C'est quand même un super joueur, hein, les gars.
Messieurs, Allemagne, Pays-Bas, le débrief. Succès des Pays-Bas, c'était le gros match de la soirée. 4-2, je rappelle les buteurs, l'évolution du score. Ouverture du score de Serge Gnabry à la 9e pour l'Allemagne. Égalisation Frenkie de Jong à la 60e, un but partout. CC de Jonathan Tah. Très lourd, hein, ce garçon. Hein. On va en parler. 65e défenseur central de la Nationalmannschaft. 2-1 à ce moment-là pour les Pays-Bas. Égalisation Toni Kroos sur penalty à la 73e minute. Et puis le gamin Daniel Malen. Premier but sous le maillot des Pays-Bas. Il a 20 ans. À la 79e, le but du 3-2. Et à la fin de la rencontre, Wijnaldum. 4-2 pour les Pays-Bas. Mais si on s'est régalé. On s'est régalé.
Comme au match aller d'ailleurs.
Ouais, 3-2. Hein. C'est une revanche pour les Pays-Bas.
C'est de revanche pour les Pays-Bas qui avaient absolument besoin de gagner au vu de leur, oui, de leur situation.
Mais par des, c'est simple, ils étaient quasiment éliminés.
Exactement. Et quand tu vois la qualité de cette jeune équipe qui arrive à finalement trouver une homogénéité entre les jeunes, certains anciens qui sont revenus, qui étaient sortis du cadre depuis un moment. Je pense à Ryan Babel qui était sorti à un moment donné. Il est parti même dans les pays du Moyen-Orient. Moi, quand j'étais en Turquie, il était à Kasım Pasa. Enfin, voilà, qui a eu une trajectoire un peu bizarre, disons. Et le fait qu'il se retrouve là, titulaire dans cette équipe.
Quel tour de Babel.
Associé, ouais. Bien joué, très beau.
Et j'ai jamais fait, je crois.
Moi je suis impressionné aussi par la qualité de Memphis qui,
il est bon,
de match en match, s'affirme comme le leader.
Il est bon en sélection.
Le leader de cette armada offensive. Non, beaucoup de plaisir. Après, cette équipe d'Allemagne, c'est vrai qu'elle entame une révolution depuis quelques temps. Et c'est vrai que quand tu regardes la défense allemande, il n'y a plus un joueur, si ce n'est Zule, et encore. Zule, il n'a pas un nom ronflant non plus.
Elle est lourde, la défense centrale allemande.
Et
elle est extrêmement lourde.
Et tu as l'impression que face à la vivacité et à la vitesse des joueurs néerlandais, bah, ils ont été pris en défaut pas mal de fois.
Le problème dans cette équipe d'Allemagne qui a fait une vraie révolution, un vrai changement de paradigme avec en disant adieu à ses vieilles gloires ou du moins à ses cadres, c'est ça.
Boateng, Thomas Müller.
Ouais. T'as l'impression qu'il y a plus vraiment de certitude si ce n'est ces deux joueurs au milieu de terrain, la personne de Kimmich et Toni Kroos qui sont eux des valeurs sûres, qui assurent toujours lorsqu'ils portent le maillot allemand. Après, c'est très jeune, ça manque d'expérience.
T'as l'impression que cette équipe est coupée en deux.
Et c'est ça,
c'est-à-dire que sur la partie, milieu de terrain et sur la partie offensive, ça tient la route. Par contre, derrière, il y a un énorme chantier.
Même je trouve que devant, en fait, c'est un peu naïf. Ça manque un petit peu d'expérience, un petit peu de tranchant. Par exemple, un Thomas Müller, on a beau le critiquer sur son âge, sur son style, ce que tu veux, alors que son âge, même il est juste trentenaire, hein, mais même sur son style, sur ses rendements récents, c'est un joueur qui t'apporte toujours des certitudes, qui va être un petit peu le taulier sur ces lignes offensives là. Là, quand tu vois cette équipe là, le problème c'est que t'as passé d'une équipe qui avait beaucoup de caractère, qui manquait peut-être un petit peu de jeunesse, un petit peu d'allant, à une équipe qui est vraiment trop jeune. Et j'ai l'impression, Polo va nous éclairer là-dessus, que la révolution que Joachim Löw a voulu entamer dans cette Mannschaft a été peut-être un petit peu trop rapide.
Attention, et les Allemands sont bien
Sont pas largués. Hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'au vu de la qualité des joueurs que tu as sur le plan offensif, le fait de jouer avec une défense à 5, ça t'enlève la possibilité de pouvoir mettre un mec en plus devant. Tu vois, là, t'as pas pu associer
Kai Havertz d'entrée, pourquoi
tout
pas
le monde. Et tu vois, tu les fais rentrer. Je trouve que 3 devant, tu pourrais avoir 4 joueurs vraiment à vocation offensive avec la sécurité derrière, Kimmich et Kroos. Je pense que jouer à 5, c'est pas la meilleure des idées.
Est-ce qu'il le fait pas parce qu'il sait qu'il a pas assez de qualité et de solidité derrière?
Ouais, mais au final, regarde, tant qu'à tu joues à 5, tu joues 4 buts.
Bah ça, je suis d'accord, bien sûr.
4 buts. Finalement, jouer à 5, c'est le meilleur moyen de désarçonner une défense qui est pas encore habituée à jouer ensemble.
Aussi.
Puisque sur les lignes d'or, jeu, tu le vois sur l'action
où
Wijnaldum a eu tendance à se projeter beaucoup. Tu vois qu'ils sont en décalé à s'aligner à chaque fois.
Et Polo, après... attends, laisse Polo. Oui. Polo est avec nous. Salut, ça va, Polo. Dis-moi, c'est un petit coup d'arrêt dans la croissance intéressante de la Nationalmannschaft, là, cette défaite face aux Pays-Bas.
Exactement ça. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. En fait, on restait un petit peu sur la victoire des Allemands aux Pays-Bas fin mars, qui, notamment la première mi-temps, qui avait de très, très belles factures. On avait vu aussi une équipe d'Allemagne beaucoup plus, où c'était beaucoup plus compliqué en seconde mi-temps. Et là, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que Guilleux, vous en avez parlé un petit peu, est revenu à sa défense à 3. C'est-à-dire qu'on, pour simplifier la possession ou à outrance, du jeu espagnol comme jeu allemand lié à l'Euro 2016 et qui s'est fini évidemment à la Coupe du Monde 2018 un petit peu arrêté, et on joue beaucoup plus sur des flèches devant où ça doit gicler dans tous les sens avec Timo Werner, Marco Gnabry, en oubliant évidemment Leroy Sané qui est blessé pour le moment. C'est assez décevant ce soir honnêtement, parce que moi je m'attendais vraiment à qu'on passe un cap dans la sélection, qu'on passe un cap sur la performance globale de l'équipe. D'ailleurs Yogi Löw, c'est assez rare pour le souligner, était très optimiste avant cette rencontre, d'autant plus que c'est vrai que l'équipe des Pays-Bas a fait une très belle rencontre, mais il y a quand même beaucoup de faiblesses dans cette équipe, faut pas l'oublier. Et donc oui, je suis extrêmement déçu. Il y a des joueurs qui avaient qui pouvaient prendre leur chance. Jonathan Tah, qui est né à Hambourg, et bien évidemment l'a complètement raté. Timo Werner pendant une heure a été inexistant. Le milieu de terrain, Kimmich, Kroos, ils ont passé quasiment leur temps à se battre entre guillemets avec le milieu de terrain de néerlandais. Ce schéma de jeu en plus 3-4-3 était mis en place pour contrer entre guillemets les grosses équipes, c'est-à-dire symboliquement c'était le premier but qui arrivait, c'est-à-dire que les Pays-Bas étaient montés très haut et on place un contre, etc., et les Allemands ouvrent le score. Là, c'est la fébrilité un petit peu partout m'a vraiment fait penser à une équipe d'Allemagne qui se cherche, et on est encore une fois, je suis très très déçu de la performance globale de la sélection. Et
est-ce que tu penses que là, en l'état, avec le groupe qui est à la disposition de la team, est-ce que tu penses que t'as les latéraux pour jouer
système-là.
Allô.
Allô. Oui, Polo. Oui, je te dis, Polo, tu m'entends?
Oui.
Oui, je te disais, est-ce que tu penses qu'en l'état du groupe que Joachim Löw a à sa disposition, est-ce que tu penses qu'il a vraiment les latéraux pour jouer justement avec une défense à 3?
Alors Nico Schulz, moi j'ai pas de souci avec lui, c'est quelqu'un qui a une carrière un petit peu en dents de scie, mais qui est vraiment plus un milieu gauche qu'un arrière latéral ou qu'un ailier gauche, donc à ce niveau-là ça ne me dérange pas. Klostermann a fait d'énormes progrès, notamment à Leipzig, mais il pourrait être en concurrence avec un autre. On pourrait penser à Weiser, le joueur de Leverkusen, mais plus, ouais, pour l'instant qu'il n'est pas encore titulaire, mais on pourrait penser redécaler Kimmich dans ce 3-4-3 et mettre par exemple Gundogan au poste de numéro 6. Donc ce serait pas vraiment compliqué à ce niveau-là. Ce qui me perturbe, c'est que elle est un peu gentille cette équipe, quoi.
Où est le caractère?
Encore une fois, on a fait une page blanche. Yogi Löw a décidé. D'ailleurs, l'échec en Ligue des Nations a été intéressant parce qu'il a profité en fait de cette compétition où l'Allemagne, rappelez-vous, est passée en fait dans le groupe B où il y avait la France et les Pays-Bas. Il a fait différents tests. Il a bien vu que les anciens en fait avaient plus le niveau pour espérer faire quelque chose à l'Euro 2020, ou en tout cas avaient plus de rendement de sénateurs par rapport à leur qualité intrinsèque. Il a décidé de faire un changement. Le début des qualifications était très intéressant. Cette victoire aux Pays-Bas, encore une fois, est importante, surtout par rapport aux 3-0 qu'ils avaient encaissé déjà aux Pays-Bas dans la Ligue des Nations. Et en fait, ce soir, on se rend compte que le trajet pour arriver à l'Euro 2020 en tant que favori, je cite évidemment Yogi Löw, est beaucoup plus dur que ce qu'on pouvait espérer. Là, si tu veux, ce soir, je suis extrêmement dubitatif, je suis presque quoi, parce que je n'ai pas vu cette équipe d'Allemagne que je voulais absolument voir. Je voulais être très très honnête avec vous, je m'attendais à un carton ce soir.
Attends, avant de donner la parole à Ludo, il y a ce tweet sur l'hashtag RMC Live de Lionel Delsar qui dit: le dieu du football est là pour rétablir la justice, faire jouer l'Allemagne chez elle dans ses 30 derniers mètres, quasiment tout le match. Chapeau messieurs des Pays-Bas.
Ah, aussi, oui.
C'est ce qu'on a vu, hein.
Ouais,
la possession est écrasante en faveur des Pays-Bas.
Ils ont le contrôle du jeu, les Pays-Bas, c'est sûr.
Oui, mais c'est fait exprès tout ça.
Ludo.
Non, je voulais savoir avec Polo qu'est-ce qu'il imaginait. Moi, je trouve aussi cette défense à 5, c'est pas extrêmement cohérent au vu de ton effectif actuel. Où est-ce qu'il voit justement le besoin de cette équipe de se renforcer? Est-ce que tu penses que c'est mieux de renforcer ton milieu de terrain et peut-être de passer à 3 ou justement de passer à 4 sur le plan offensif vu l'apport peut-être d'un Brandt ou de le
Kaya jeune là,
ouais,
de est bon, lui, hein.
De Leverkusen?
Bon, alors il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, il est en train d'osciller entre une défense à 3 et une défense à 4. On va dire contre les équipes dites plus faibles, il va passer dans une défense à 4 et il met un peu qui il veut devant. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il joue contre les grosses nations, il va rester, c'est ce qu'il propose en ce moment en tout cas, une défense à 3 en disant devant ça va se jouer soit avec Leroy Sané, soit avec Timo Werner, soit avec Gnabry qui marque encore ce soir. N'oublions pas 9 sélections, 8 buts quand même, donc c'est difficile de le sortir. Ouais. Et puis Marco Reus, c'est un petit peu en capitaine d'équipe, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que j'ai pas vu la progression. C'est-à-dire que c'est un peu les caractéristiques des mauvaises équipes d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on leur dit vous jouez bas, vous menez au score, c'est très bien, mais en fait ils savent pas passer la seconde ou la troisième lorsque ça devient compliqué. Ils doivent aller au combat. Ce soir, encore une fois, Jonathan Tah a pas été bon. Alors on peut imaginer que Rudiger revienne lorsqu'il sera en forme. On peut imaginer évidemment au milieu que Gundogan reprenne. On peut imaginer que Leroy Sané revienne dans le 11 titulaire. Mais dans ce schéma en 3-4-3, si tu veux, qui est très très populaire aujourd'hui en Allemagne, et d'ailleurs je sens l'influence de Nagelsmann d'ailleurs dans ce schéma, c'est très très, si tu veux, ça manque d'automatisme. Et puis c'est surtout une équipe, ils ont raté le 2-0 quand même ce soir. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait on n'aurait pas du tout les mêmes conclusions. Mais encore une fois, je suis extrêmement déçu par la performance globale de la sélection ce soir. C'est même un vrai recul par rapport à ce qu'on voyait dernièrement. D'autant plus, c'est que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on, par rapport à ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2018, on sent que le groupe est beaucoup plus motivé pour faire quelque chose. Ouais. En gros, on a enlevé ceux qui ne devaient plus être là en sélection. C'est beaucoup plus sain au sein des rapports de l'équipe. Il y a une reprise en main très clairement de la fédération et de Guy Leuf sur certains joueurs. Et on se disait, bon, bah, ça va y aller. Si on passe les Pays-Bas d'une façon assez intéressante ce soir, on se dit, OK, les Pays-Bas, c'est plus dans la catégorie, on passe au-dessus. Pour simplifier, la France ou d'autres nations. Là, non, on a à nouveau les questionnements qui se posent. C'est-à-dire que la défense a été très mauvaise. On n'a rien à reprocher, évidemment, à Manuel Neuer ce soir. Jonathan Tah, encore une fois, a été catastrophique. Au milieu de terrain, moi, j'ai vu Kimmich, à part se battre, je ne l'ai pas vu faire grand-chose, pas vu de faire de passe sur l'avant. Timo Werner, c'était pourtant en plus un match pour lui, parce qu'il est en super forme en ce moment à Leipzig. Il n'a rien fait
déjà
du tout.
Cette saison, il n'a rien fait ce soir.
Il n'a rien fait. Il a sorti à l'heure de jeu, etc. Tu as aussi les remplaçants. C'est-à-dire que Yogi Löw, il remplace des joueurs à vocation offensive contre des joueurs qui sont quand même plus des milieux offensifs qu'autre chose. Donc c'est pas tout à fait. Je comprends pas trop en fait le scénario du match. Ce que je vois, c'est que l'Allemagne a perdu. J'ai pas envie de dire que c'est de leur faute, parce que les Néerlandais ont moi j'aime beaucoup Depay de toute façon.
Et puis il y a des petits jeunes, etc., qui poussent. Effectivement, parce qu'il fait un début de saison et ça réagit beaucoup sur Twitter.
Je veux juste demander à Polo, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a un de ces garçons comme Havertz ou Brandt qui pourrait éventuellement jouer dans un 4-2-3-1 en tant que meneur de jeu?
C'est ce qu'il faut. Tout à fait, sauf que n'oublions pas qu'Kai Havertz, il a 20 ans. Alors ça j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il faut toujours décrypter ce que dit Yogi Löw. Il dit toujours il est l'avenir. En gros, quand tu es l'avenir, c'est que t'es pas maintenant, quoi. Et donc ça veut dire qu'il va le préparer, il va l'amener évidemment à l'Euro 2020, mais on va dire c'est plus pour le préparer dans un objectif de la Coupe du Monde 2022. Julian Brandt évidemment est un titularisable, évidemment pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut-il déjà qu'il prenne sa place, toute sa place au Borussia Dortmund avant de penser être en sélection ou sélectionné et d'être un titulaire indiscutable en sélection. Et n'oublions pas qu'il y a une nouvelle concurrence qui va être celle de Leroy Sané, qui va revenir de blessure, on va dire début 2020. Et ça va changer beaucoup de choses. Donc là, il y a le groupe en lui-même est très intéressant. C'est pas la question. Oui. Le problème, c'est le temps qu'on va avoir pour en faire quelque chose. Et ce soir, disons-le très clairement, c'est une vraie déception. J'ai pas envie de dire. Alors, les Allemands aiment bien employer le mot plight. Tu sais, c'est la faillite et tout. Ce soir, c'est quand même une vraie claque que s'est pris la sélection allemande. C'est la troisième défaite seulement dans l'histoire à domicile, dans l'histoire des qualifications pour un championnat d'Europe. Celle-là, elle fait mal, quoi. Et comme par hasard, ça se passe à Hambourg. C'était la même chose en 1988 lors de la demi-finale du championnat d'Europe.
Mais si on fait une pause, on va revenir dans un instant avec Mustapha qui nous appelait au 32-16 pour évoquer cette équipe d'Allemagne navrante, selon ses propres termes. Polo, tu restes avec nous, bien sûr. On fait un point sur le classement parce que, a priori, pour l'instant, l'Allemagne est largement en course pour la qualification pour l'Euro 2020. L'Irlande du Nord avance à grands pas, peut-être. Hein. Ça va être long encore, Jonathan. On en parle dans un instant avec Ludo Bragnac et Jonathan. Eric Salio, le tennis, excuse-moi Ludo, c'est l'US Open demi-finale. Dimitrov Medvedev. Salut Eric.
Salut à tous, effectivement, c'est parti depuis une grosse demi-heure et c'est très serré puisque il y a 5 jeux à 4 pour Grigor Dimitrov dans cette première manche, mais il n'y a pas de break, c'est-à-dire que Medvedev, dans quelques secondes, va servir pour tenter d'égaliser à 5 jeux partout. Première nuit, la deuxième, vous la connaissez, hein, ce sera Berrettini Nadal, donc tout dans la nuit pour vous.
Et l'after revient dans un instant, merci Eric, avec Jonathan Macardy, Ludovico Bragnac, Polo Breitner, Mustapha au 32-16, la défaite de l'Allemagne à domicile face à une très séduisante sélection des Pays-Bas, on en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.